de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Parlez-moi d'amour. Cela aurait pu être le sous-titre de la série en trois volets que Philippe Langlois consacrait en 2001 dans Carnet de notes aux musiques de films du compositeur japonais Toru Takemitsu. Parlez-moi d'amour, c'est paraît-il en entendant cette chanson à la radio que Takemitsu, adolescent, se choisit une destinée de musicien. Amour de la musique, amour de l'art sous toutes ses formes et de tous les cieux, amour de la nature, au centre de sa démarche artistique, et amour du cinéma, donc, auquel il consacra une grande part de sa carrière et qui ne cessa jamais de le captiver. Dans la dernière de ces trois émissions consacrées à Takemitsu, compositeur pour le cinéma, on découvre un artiste autodidacte pour l'essentiel, pétri de culture occidentale et cependant profondément ancré dans la culture japonaise. « Pour moi, disait Toru Takemitsu, l'orchestre est un ensemble structuré à la manière des jardins japonais traditionnels dont il est impossible d'avoir une vue d'ensemble mais qu'il faut découvrir dans une promenade. » Le détail ne prend jamais le dessus, mais s'intègre dans l'ensemble.
Philippe, vous refermez aujourd'hui cette série de trois émissions consacrées au compositeur de cinéma Toru Takemitsu.
C'est en effet la dernière émission sur ce sujet et aujourd'hui nous allons nous attacher à montrer comment la nature est omniprésente dans les pièces de Toru Takemitsu, autant pour le concert que pour le cinéma. Notre parcours de ce jour nous conduira de 1964 à 1996 à travers Kwaidan de Kobayashi, Under the Cherry Blossom et Orin la Proscrite de Masahiro Shinoda et enfin Dream Window de John Junkerman. Nous aurons le plaisir d'entendre Alain Poirier, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique à Paris, auteur de l'ouvrage Toru Takemitsu, publié par le festival Octobre en Normandie, édition 1996. Les gens me demandent souvent comment j'ai appris à composer de la musique. J'avoue que je ne comprends pas vraiment moi-même. Je n'ai pas eu de véritable éducation musicale. J'ai appris tout seul. Ma musique est profondément influencée par la nature et les jardins japonais. Les jardins m'ont appris à apprécier le sens japonais du rythme, de la couleur. Tous les éléments d'un jardin sont précieux. Chaque pierre et chaque arbre. D'une manière ou d'une autre, nous voyons se refléter en eux l'univers entier. Dream Window de John Junkerman, 1996.
Et on
Vous comprenez un jardin en circulant dedans. Ce n'est pas une expérience linéaire du tout. C'est circulaire. Comme pour les cycles du karma. On revient toujours au début. J'écris ma musique en plaçant des objets dans mon jardin musical. De la même façon que les objets sont placés dans un jardin japonais traditionnel. Under the Cherry Blossom, Masahiro Shinoda, 1975. Le bruit du vent dans les pins, la brise dans les massifs de bambou, pouvoir capturer ces sons, ce serait atteindre la perfection. Aurine l'a proscrite, Masahiro Shinoda.
La notion de jardin japonais précisément, et Tommy Alain présente Poirier. Dans sa pensée et dans sa musique, beaucoup d'œuvres portent le mot de garden dans le titre, et c'est une notion évidemment très forte, mais à condition de bien considérer le jardin au sens philosophique du japonais qu'était Takemitsu, qui est une notion encore une fois qui nous est assez étrangère et assez éloignée, du moins nous n'avons pas cette conception-là, mais dans ce rapport, et c'est là où le ma est peut-être ce moment de rencontre entre le divin et l'humain, c'est peut-être ce lien entre le silence et le non-silence, c'est en tout cas le moment où il se produit quelque chose. Et Takemitsu a le génie de trouver de quelle manière produire ce choc, encore une fois, mais ce choc peut être un pianissimo, ça peut être un choc très fort quelque part par le geste, par la façon de le faire, alors que la réalisation peut paraître ou passer plus ou moins inaperçue si on ne la prend pas en tant que telle. Et vous avez raison de souligner que dans les derniers films, il s'orientait de plus en plus dans cette voie, en particulier dans le Dream Window de Joe Kerman, dans laquelle il y a véritablement une façon d'épouser une conception de la nature pour cet oriental, et qu'il a retrouvé dans ce film, qui a été un film très important dans sa filmographie, dans les partitions qu'il a pu écrire.
Peut-être pourrions-nous préciser cette notion du ma et voir comment celle-ci se traduit dans la musique de Takemitsu. Alain Poirier.
La notion du ma est une chose extrêmement complexe, mais qui est avant tout une forme de un lien spirituel entre l'homme et la nature. Ce qui n'est, encore une fois, n'est pas complètement dans notre culture occidentale, ou du moins si la nature y est présente, c'est à tout à fait un autre degré, une autre conception philosophique. Le japonais que reste Takemitsu, même dans ses œuvres, je dirais, les plus occidentales stylistiquement, reste complètement attaché à la nature et reste complètement attaché au bruit de la nature ou au silence de la nature ou à, tout d'un coup, cet élément qui arrive, qui peut être un choc fort, qui pourrait se traduire, je dirais, au premier degré par une intervention orchestrale brutale et forte qui fait qu'on sursaute parce qu'on ne peut pas ne pas l'entendre, mais qui peut être aussi, plus subtilement, sous la plume de Takemitsu, le silence, tout d'un coup. C'est-à-dire que le silence est musique sous la plume de Takemitsu, parce qu'il est intégré en termes de matériaux musicaux. C'est là aussi où Takemitsu est proche quelque part de Debussy, qu'il admirait beaucoup, en particulier pour sa conception, je dirais, du silence en tant que matériau. Et puis, en tant que, je dirais, retrait de l'homme face à la nature étant l'expression divine dans sa pensée, retrait de l'homme, ou du moins humilité de l'homme. Donc, le mât, c'est à la fois une forme de repli, de respect, de recueillement, qu'on retrouve beaucoup aussi dans son attachement à certains aspects de la nature, mais il y a d'abord beaucoup de cycles dans son œuvre qui sont l'attachement aux arbres, à la mer, même à ce qu'il appelait la mer de tonalité, donc ce grand esprit qui réunirait tout dans tout, si j'ose dire, c'est une formule évidemment assez globale. Et donc le mât est avant tout une façon d'être. C'est pas une chose que l'on peut, même en supposant qu'on arrive à bien comprendre ce que recouvre cette notion pour un oriental, c'est une façon d'être, une façon de vivre en soi par rapport à sa propre culture. Et là, je pense qu'on ne peut en rester qu'à une description très générale et probablement un peu caricaturale.
Dans Kwaidan. Je voulais créer une atmosphère de terreur. Mais si la musique dit constamment « Attention, soyez terrifiés », alors toute l'attention est perdue. C'est comme se faufiler derrière quelqu'un pour lui faire peur. D'abord, il faut du silence. Même un simple son peut être de la musique de film. Là, je voulais que tous les sons aient la qualité du bois pour ses effets. Je demandais un crack et quelqu'un cassait du bois. Le mettait en pièces ou le fendait avec un grand couteau. Avec tous ces sons de bois, j'ai monté ma bande sonore. Parfois, je voulais couper le son juste un peu, même d'une demi-seconde, pour faire monter la tension. J'en parlais à Kobayashi, le réalisateur. On a essayé et il a accepté.
Takemitsu n'a pas composé vraiment de partition, il l'a fait d'un point de vue purement électroacoustique, et a utilisé du bois brisé, le bruit du bois, d'une planchette que l'on peut briser, donc ce bruit très particulier, qui coïncide à un moment avec effectivement quelque chose qui se passe dans la scène, et en même temps qui finit par envahir complètement l'espace sonore, dans cette scène aussi de Kwaidan où le samouraï infidèle découvre l'horreur tout d'un coup dans son rêve, où ce bruit finit par devenir complètement obsédant, il envahit totalement l'image quelque part, et là on dépasse complètement, on est très loin d'une quelconque illustration, on est véritablement dans ce que représente cette scène, ce que veut représenter cette scène avec tout ce qu'elle est, elle est de tension et de dramatisme.
La première fois que j'ai utilisé de la musique japonaise dans un film, ça a fait sensation. Oh là là, il a mis un biwa dans une musique de film. Étrange comme réaction, non? Se sont rendus même les Japonais perplexes.
De ses voyages, il se prenait toujours du temps pour aller systématiquement au cinéma. Curieusement d'ailleurs, c'est une chose qui a été rapportée à plusieurs reprises, mais je me souviens que cette phrase, cette réflexion m'avait frappé. Il m'avait dit qu'il allait même au cinéma dans des pays dont il ne comprenait pas la langue. Et qu'il avait besoin de sentir, je dirais, d'essayer de comprendre la personnalité d'un pays, d'une culture, même s'il ne comprenait pas, il comprenait globalement le sens de ce qu'il voyait, mais même si la langue lui était inconnue.
On va où ?
Nul n'était plus passionné que Tori Takemitsu pour le cinéma. Il voyait en moyenne plus de 300 films par an et pouvait parler de chacun d'eux. Sur l'une des dernières notes qu'il rédige, alors qu'il est immobilisé à l'hôpital, on peut lire « Je suis maintenant malade depuis 9 mois et pendant tout ce temps-là, je n'ai pas vu un seul film ». Tout comme la nature, le cinéma est donc central dans la vie de Takemitsu. Alain Poirier.
Oui, c'est tout à fait caractéristique de cette vie consacrée à toutes sortes de manifestations artistiques. C'est véritablement un besoin. Et j'ignorais effectivement que le nombre de films qu'il voyait par an, enfin, c'est absolument stupéfiant. Il y avait c'est au-delà de la passion. Là, c'est quelque chose de vital de ce côté-là. Mais en même temps, je crois que là, il y a peut-être une fois de plus l'aspect oriental, je dirais l'aspect japonais, donc de la culture de Takemitsu, qui consiste à penser, à imaginer, à créer, non pas de façon abstraite, mais toujours en relation avec notamment la nature, bien entendu, c'est le premier sujet, je dirais, qui s'impose à l'homme en tant que tel, mais cette nature qui est une nature non seulement omniprésente, mais dans laquelle nous avons tout le drame du monde. Tout le monde est là. C'est drame et c'est bonheur, bien évidemment. Et que peut-être pour Takemitsu, je n'ai pas la réponse, c'est une simple hypothèse, le cinéma était-il une façon de concrétiser, de symboliser aussi ce rapport à la vision, tout simplement. Takemitsu lui-même aimait abondamment se recueillir dans la nature, quelle qu'elle soit, et quels que soient les pays où... où il était. Et je me rappelle que lors d'une rencontre, il s'était d'abord intéressé dans la ville. Il dit, où sont les parcs? Enfin, il y avait peut-être une soif, un besoin. Et donc le cinéma, je crois, était aussi, faisait partie de cet appétit assez considérable. Musique, images, nature, tout ça, c'est peut-être la même chose, en fin de compte, dans l'esprit de Takemitsu, dans l'esprit de sa création.
C'est avec l'Empire de la Passion de Masahiro Oshima que nous refermons cette série consacrée à Toru Takemitsu, compositeur de cinéma. Je remercie les films d'ici qui ont produit un superbe documentaire, Toru Takemitsu, compositeur pour le cinéma, réalisé par Charlotte Sferin et qui nous ont été d'un grand secours dans l'élaboration de cette émission. Attaché d'émission Claire Poinsignon, mixage Sylvain Lelièvre, réalisation Gilles Mardi-Rossian, Tu vois ce que j'entends, une émission de Philippe Langlois.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 22 octobre 2001 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de longtemps. Vous que toujours vous répétiez ces mots suprêmes et je vous aime. Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que je dors. Vos trois oiseaux sont caressants qui le murmure en frémissant, ma baisse de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y croire. Parle-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, balade l'entendre. Pour vous que toujours vous répétez ces mots suprêmes, je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou. La vie est parfois trop amère, si l'on ne croit pas aux chimères. Les chagrins invitent à pâtir et se consolent d'un basil du cœur en guerre de la blessure. Pas un serment qui la rassure. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre bonheur, mon corps est balade à l'entendre. Pour vous que toujours vous répétez ces mots suprêmes, je vous aime.